franceinter.fr.
La revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par une île hantée par ses fantômes.
La Corse est hantée par ses fantômes. L'article fait la une de M, le magazine du Monde. Antoine Albertini, journaliste à Corse Matin et correspondant du Monde, raconte ce qui fait la singularité de son île. Plus de 700 personnes assassinées depuis 1988. La violence qui fait partie de sa culture, de la culture commune. Mais plus intéressant encore, comment lui, Corse et journaliste en Corse, est imprégné de cette violence qu'il n'arrive pas à renier totalement. Alors ça commence par une balade dans les rues et les ruelles de Bastia. N'importe quel itinéraire mène sur les traces invisibles de ces spectres, tous, un à un, foudroyés par une balle, abattus d'une rafale. Depuis son ordination, il y a une vingtaine d'années, un diacre de Bastia a assisté à plus de 200 enterrements de victimes d'assassinats. Quand on l'appelle en pleine nuit, il sait et se dit « on l'a tué ». On est incontestablement le meurtrier le plus doué de l'île, écrit le journaliste. Car ce pronom indéfini se transforme rarement en une identité bien établie. Ce qui ne fait qu'alimenter, explique-t-il, la défiance de la population envers des institutions, la police et la justice, incapables de suturer les plaies de la société insulaire. Se perpétue ainsi le cycle de la vengeance privée, tuée pour réparer, spirale infernale. Le journaliste pointe la responsabilité de l'État qui, pendant des décennies, a consacré beaucoup de ses moyens à la lutte antiterroriste, ouvrant un boulevard au crime organisé. Les habitudes du milieu ont imprégné en profondeur le corps social, imposant une vision cyclique, brutale du recours à la violence. Une violence désormais considérée comme un mode de régulation des conflits parfaitement acceptable. Chaque Corse connaît une victime d'assassinat. Chaque intérieur maison corse est hanté par des portraits jaunis. La mort violente nous environne, dit Albertini. Pour autant, la violence fait-elle partie intégrante de la culture corse, s'interroge-t-il. L'opinion dominante dans l'île, si prompte à se sentir stigmatisée, refuse, dit-il, d'admettre l'évidence. Alors, Albertini se raconte lui. D'abord, ces tout jeunes enfants qui, comme tous, ont intériorisé la banalisation de la violence. Lui-même, qui reconnaît être de cette génération, grandit non seulement dans une atmosphère de violence éruptive, mais aussi dans le culte de son absolue nécessité. En dépit de l'horreur qu'elle m'inspire, ose-t-il écrire, je considère que la violence peut être libératrice, que son apprentissage précoce permet d'en éprouver les limites. Alors je mesure ce que mon propos peut avoir de choquant. Les générations futures trouveront-elles la force de rompre avec de tels comportements, s'interroge-t-il. Albertini est plutôt pessimiste face à une jeunesse confrontée à d'autres formes d'agression, comme le choc du déclassement et de l'insécurité sociale. Un récit courageux, gênant, voire choquant parfois, d'un Corse face à ses fantômes. Et c'est à lire dans M ce matin.
Plus léger, Hélène, un article moqueur.
Le magazine Stratégie célèbre à sa une « Les jeunes vieux ». C'est la dernière tendance du moment, paraît-il. Être jeune mais conformiste, tranquille dans ses charentaises, très à la mode, paraît-il. Portrait assez rigolo de Delphine Le Goff, de ses corps juvéniles aux aspirations pépères, de ses jouvenceaux qui affichent des goûts sentant la naphtaline. Un publicitaire se gosse cruellement de ses post-ados vieillis avant l'âge. Il préfère te prévenir qu'ils sont cash quand en fait ils sont juste sur le point de te donner leur avis. Ils sont souvent exténués à force de faire bouger les lignes, comme ils disent. Dans leur regard, on sent qu'ils pensent très fort à la retraite. Alors le parangon de ce néo-jeune pour Stratégie, eh bien figurez-vous que c'est Emmanuel Macron, 39 printemps, et il s'affiche avec Lynn Renault. Il parle de poudre de perlimpinpin, il chante Johnny, et avoue kiffer Télématin. Sur Slate.fr, la romancière trentenaire Titu Lecoq s'étonne. En termes de référent culturel, Macron ne fait pas partie de ma génération. Je peux me reconnaître en lui parce qu'il y a une vieille dame qui sommeille en moi. Mais enfin, on est très loin de d'un Obama à la française. Bon alors, jeune vieux peut-être, notre président. N'empêche qu'il fait carrément jeune quand il s'expose élitreillé sur le sous-marin nucléaire Le Terrible il y a quelques jours. Le site du britannique The Independent n'en a pas perdu une miette et consacre un post à ses photos largement relayées sur les réseaux sociaux. Macron se croit dans un film d'action et c'est fantastique, s'exclame le journal. CNN s'est même demandé s'il ne se prenait pas pour James Bond. Bon, voilà, il se moque encore. N'empêche que les internautes du monde entier se sont empressés de réclamer à leurs propres dirigeants, Theresa May et Donald Trump, de faire exactement pareil.
Il n'est pas question qu'il y arrive élitreillé, mais Donald Trump est à Hambourg, donc aujourd'hui en Allemagne, première rencontre avec son homologue russe.
Trump-Poutine, le face-à-face de la testostérone, titre de l'édito du New York Times. La journaliste souligne combien ces deux présidents sont des versions caricaturales de l'hypermasculinité, chacun la mettant largement en scène dans son propre pays. Si ces rencontres par le passé entre président américain et président russe, puis soviétique, Nixon-Khrouchtchev par exemple, peuvent toutes être vues sous le prisme de la virilité revendiquée par les uns et les autres pour mieux défendre leurs intérêts, bien cette fois, c'est peut-être un petit peu différent, parce que peut-être plus déséquilibré, s'inquiète Philippe Gély dans le Figaro. La réputation d'impréparation du président américain fait craindre le pire à son entourage, raconte-t-il. Un épais dossier était remis à Donald Trump sur le profil psychologique détaillé de son homologue, mais comme il n'aime pas lire, on lui a résumé les points clés en formule de la taille d'un tweet. Quand Poutine, lui, sera très bien préparé, prévoit un expert. Il fut et reste un officier du KGB, expert dans l'art de la persuasion, voire de la manipulation. Dans Les Échos, Elsa Koneza raconte d'ailleurs que le président russe amena son labrador pour une rencontre avec Merkel, parce qu'elle avait la réputation, la chancelière allemande, d'avoir peur des chiens, du grand art. On comprend l'inquiétude des conseillers de la Maison-Blanche quand on sait que des dossiers aussi lourds que l'Ukraine ou l'implication de la Russie dans le conflit syrien sont aujourd'hui à l'ordre du jour des discussions.
On termine avec des photos.
Oui, les rencontres d'Arles ont débuté. Spécial Libé des photographes ce matin. Tous les sujets d'actualité sont illustrés par de grands photographes. Par exemple, le plan climat de Nicolas Hulot, Entre deux eaux, titre le quotidien. Photo de Gideon Mandela, présent à Arles, qui a travaillé sur un monde qui se noie. Ces hommes et femmes qui, du Brésil à la Caroline du Sud, en passant par le Nigeria, subissent les conséquences des dérèglements climatiques en se retrouvant littéralement dans l'eau. Et puis, exemple aussi avec un reportage de William Daniels au cœur de la bataille de Mossoul. Vous nous en avez parlé il y a quelques instants, Samuel Fauré. Photo d'une ville en ruine, de civils blessés, à bout de force, mais aussi par le même photographe, photo d'habitants dans Mossoul Est, justement, la partie est de la ville qui renaissent ces habitants à la vie normale. Alors on y voit des coiffeurs, on y voit des parties de billard, on y voit des rues nocturnes embouteillées et le contraste est absolument saisissant. Ode au photojournalisme de guerre, donc bienvenue évidemment, mais qui cache en réalité une autre réalité soulignée par Charlotte Viguier sur le site Mashable de France 24. Kenoa Little a suivi la bataille de Mossoul depuis avril dernier. Il a immortalisé l'avancée des forces irakiennes lui aussi. Il a immortalisé l'exode des civils sous les bombardements. Mais figurez-vous que rentrer aux États-Unis, eh bien personne n'a voulu de ces photos. Aucun média, ce n'est pas nouveau. Le photojournalisme est en crise. Alors Kenoa Little a décidé de les mettre en accès libre sur Internet pour au moins témoigner gratuitement et au péril de sa vie quand même.
Samuel Fauré, ça vous est arrivé, vous aussi, d'essuyer des refus des rédactions quand vous envoyez des papiers? Vous aviez eu une réaction à peu près similaire il y a quelques mois. Vous aviez décidé, plutôt que de faire payer votre article ou de l'envoyer à Paris, de le publier sur Twitter sous la forme, je crois, de 70 messages de 140 signes. Vous l'aviez coupé en morceaux, l'article, et diffusé gratuitement également. Est-ce que c'est difficile d'intéresser le média pour lequel vous travaillez et les opinion publique, l'opinion publique ici en France, à un conflit qui dure depuis des années maintenant et à une bataille qui, elle, dure depuis 9 mois?
Alors, pour être juste, l'histoire était... c'était à Mossoul-Est. Ouais. Imaginez une immense pyramide qui est un hôtel de luxe que les djihadistes ont utilisé pour leur propre compte quand ils ont commencé à occuper la ville. Et je participe à la libération de cet hôtel. Et on se trouve dans Shining. On a l'impression qu'un géant a soulevé l'hôtel, l'a renversé, l'a secoué et l'a remis à sa place. C'est un désordre incroyable, quelque chose de... Donc on ouvre cet hôtel, on progresse dans le noir, etc. Et ça a été un moment tellement fort, en fait, que j'ai d'abord commencé à écrire quelque chose. J'ai ensuite choisi de tweeter parce que c'est un format que j'utilise beaucoup. J'aime bien l'interaction. C'est d'autres formes de narration pour moi. Donc c'est une autre forme de liberté. Et ensuite j'ai envoyé l'article au Figaro qui l'ont pas pris parce qu'ils avaient pas de place à ce moment-là. C'était pas très grave. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de raconter ce moment incroyable. On avait l'impression d'être dans quelque chose de nouveau, une sorte de film fantastique, d'espace, d'être dans une sorte de labyrinthe mystérieux. C'est très étonnant et j'étais très content de le faire découvrir à mes lecteurs sur Twitter.
Mais vous comprenez quand les rédactions parisiennes vous disent non, on n'a pas de place, on a autre chose à mettre à la une aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a...
Oui, je comprends. J'ai d'autres frustrations. avant, sur des domaines qui étaient moins dans l'actualité. Mais cette bataille de Mossoul, j'ai beaucoup couverte et j'ai eu un espace quand même assez grand pour la couvrir. En plus, dans beaucoup de dimensions différentes, parce qu'il y a non seulement Mossoul, mais il y a aussi autour de Mossoul, il y a les questions politiques, il y a les questions de vendetta, il y a les questions de aussi tout ce qui se passe dans cet espace désertique qui est entre l'Irak et la Syrie. Ça fait 3 ans que je couvre l'Irak et la Syrie, surtout sur cette zone, sur les zones des Kurdistan, les Kurdistan, le Kurdistan irakien et le Kurdistan syrien. J'ai eu quand même pas mal de place pour raconter à peu près ce qui se passait dans le plus de dimensions possible, même si c'est jamais assez, en fait. C'est ça, la frustration, c'est que, d'une certaine manière, la situation est tellement complexe qu'on aimerait avoir beaucoup plus de place, bien sûr.
Merci Hélène Jouan pour la revue de presse. Vous restez avec nous jusqu'à 9h, bien évidemment. On marque une toute petite pause.